Je suis en compagnie et dans le bureau de Gérard Azoulay, responsable de l'Observatoire de l'espace du CNES, l'entité culturelle. J'aimerais que nous partions de la revue Java numéro 25-26 de 2004 et de son dossier, Le travail de l'espace. Ce dossier a été réalisé en partenariat avec l'Observatoire de l'espace du CNES, et donc c'était vous qui avez dirigé ce dossier. La revue Espace n'existait pas encore. Le premier numéro a été créé en 2005, à la fin justement de la revue Java. Y a-t-il une continuité? Ne se trouverait-il pas là la matrice de la revue Espace?
Bonjour. Je ne sais pas si c'est complètement la matrice, mais certainement il y a du tressage d'un travail, du tressage de notions, et du tressage d'espace. Il faut se rappeler peut-être comment est né ce dossier dans la revue Java. Et c'était finalement dans un dialogue avec Jacques Sivan et Jean-Michel Espitalier, cette idée commune de s'intéresser au vocabulaire de l'espace, en fait. Cette question des mots, cette question de la façon dont l'espace même peut modifier le vocabulaire, peut l'enrichir, le déplacer. Et on a souhaité, finalement, au cours d'une discussion, se dire, mais comment on pourrait rendre compte de ce déplacement? Et c'est peut-être là que, finalement, l'écriture sur la question de l'espace est née entre nous déjà, dans cette revue-là. C'est-à-dire comment, en prenant finalement différents angles, différents regards, on pouvait construire un objet un peu différent sur l'univers spatial, sur l'activité spatiale, sur l'espace. Il faut bien voir qu'à ce moment-là, quand on parlait d'espace, c'était beaucoup de la science-fiction. C'était surtout de la science-fiction, le monde de la science-fiction, qui était là, enfin, qui donnait cette ouverture à l'espace. C'était moins par le biais de la, je dirais, par ce langue de la poésie ou ce langue de la littérature générale qui était abordé l'espace. Il y avait donc cette idée-là aussi. Et quand je dis finalement poésie, je dis aussi sous l'angle d'une poésie. Quand c'était abordé sous l'angle de la poésie, c'était une poésie assez classique. C'était un espace du 19e siècle dont on parlait. Un espace qui était celui de l'astronomie, celui de la sphère des presques, celui de la sphère des fixes. Et donc là, c'était vouloir aborder un espace bien plus contemporain. Donc on s'est peut-être retrouvé sur cette façon d'aborder le monde spatial. Et pour cela, c'est déjà à la fois faire appel, inviter des poètes contemporains, en même temps convoquer des acteurs du monde spatial. Donc je dis acteurs parce que finalement, ça donne tout de suite la couleur. Acteurs, c'est pas uniquement les célèbres scientifiques, c'est tous ceux qui finalement. Vivent avec l'espace, vivent de l'espace. Ça peut être bien sûr des sciences exactes, mais aussi ça peut être même des spationautes, ça peut être des historiens. Donc c'est toutes ces personnes qui ont été aussi convoquées dans ce numéro pour apporter un peu cette vision de l'espace. Je pourrais dire, peut-être qu'on pourrait revenir à cette question de la matrice en disant, c'est peut-être là où s'est déjà forgée la pluralité d'approches. Et c'est là que je crois qui peut, je dirais, s'inscrire dans une filiation avec la revue Espace.
Parce que aussi, vous n'avez pas été de côté de n'importe quelle revue de poésie ou de littérature. Java, à l'époque, représentait ce qui se faisait de plus expérimental en langue française, dans ce champ qu'on disait poétique, enfin le champ de la poésie, parce que c'était là où avaient lieu les expérimentations littéraires, en fait, tout simplement. Et on disait, pour la poésie expérimentale, pour dire c'est de la littérature, c'est de la fiction, et vous jouez avec le langage et on ne comprend pas forcément ce que vous faites. Or, c'est directement là que avec qui vous avez fait affaire, c'est-à-dire avec le milieu de la poésie expérimentale, pour faire une rencontre. C'est ce que vous écrivez en introduction de ce dossier Java, que ce dossier donne la parole à deux communautés. L'une qui a pour préoccupation principale l'espace du langage et qui s'y confronte quotidiennement. Donc on pourrait appeler ça le champ de la poésie expérimentale. L'autre qui a un rapport plus pragmatique avec l'espace. Et vous continuez, la question est de se demander quel était le substrat possible pour une rencontre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une rencontre, parce que vous, Gérard Azoulay, vous êtes scientifique, vous êtes astrophysicien. Et vous vouliez tout de suite peut-être faire une rencontre avec ce qu'il y avait aussi d'expérimental dans la langue et dans la littérature française.
Oui, en fait, oui, bien évidemment, ma formation pèse dans ce projet, mais en fait, j'ai voulu aussi l'oublier de certaines façons pour qu'elle n'obère pas la rencontre qui devait surgir et qui était finalement dans ce déplacement même des acteurs du monde spatial de ces deux communautés qui allaient se rencontrer. C'était favoriser ce mouvement-là. D'ailleurs, dans ce dossier, on a même des fois des entretiens croisés où on a des poètes qui vont aller rencontrer, je dirais, s'immiscer plutôt que rencontrer dans l'univers spatial. C'est cela qui était visé. Donc c'est vrai que ce substrat, c'est comment c'était presque. Il n'était pas donné au départ. C'était le construire avec ce numéro, le faire. C'était une hypothèse et vérifier, voir si elle était féconde. Et c'est ça qui est passionnant quand on fait un dossier dans une revue.
Parce que l'Observatoire de l'espace du CNES est créé en 2000. La revue Espace commence en 2005. On peut considérer peut-être que la revue Espace est la vitrine textuelle de ce qui se passe à cet Observatoire de l'espace. Qu'est-ce qu'il y a eu comme action entre 2000 et 2005? C'est-à-dire peut-être aussi le moment où s'élabore le besoin d'avoir une revue papier.
Ah, disons que il y avait cette attention, encore une fois, à la langue française, à la langue aussi, à la question de la langue et de l'espace. La langue et l'espace. C'est toujours cette question de comment. Que nous fait l'espace? Que fait l'espace à la langue? Que fait l'espace à l'homme? Et finalement, c'est d'ailleurs ce qui était un peu déployé dans le dossier Java, hein, c'est que il y a une sorte d'opération qui se fait sur la langue simplement par le fait de, dans l'espace au sens pragmatique terme, on est en état, la gravité est absente et donc cela change le langage. Le haut, le bas n'existe plus. Donc c'est point d'orientation. Il y a une désorientation permanente qui est là et donc elle se ressent sur la langue. Et c'est déjà quelque chose qui est intéressant, qui est passionnant à explorer. Comment ça peut se traduire dans l'écriture, dans le texte. Alors, c'était rapidement, c'est un point qui m'a semblé important dans l'Observatoire de l'espace, c'est de savoir comment on peut pouvoir, comment le traduire, comment l'explorer, comment conduire des explorations dans ce domaine. Ça paraît, c'était puisque finalement, on n'allait pas emmener tout le monde dans l'espace. Donc, c'était cette question-là. Donc, en fait, il y avait un premier. C'est passé par un détour assez institutionnel qui était une manifestation du ministère de la Culture qui s'appelait la semaine de la, enfin, qui s'appelle toujours, hein, d'ailleurs, la semaine de la langue française. Et donc, dans cette manifestation, il proposait 10 mots chaque année pour cette semaine et il fallait. Tout un chacun pouvait construire. Un dispositif, quoi, quel qu'il soit, des ateliers d'écriture ou de création ou autre. Et ça m'avait intéressé de prendre un dispositif tel que celui-ci et de le détourner. Enfin, le détourner, je ne sais pas. ou du moins de le plonger dans le milieu spatial et donc de prendre déjà ce vocabulaire, quel qu'il soit, qui n'avait strictement rien de scientifique et technique, et de le plonger, de voir comment il réagissait si on s'intéressait à le redéfinir au prisme de l'espace. Parfois, à définition métaphorique. Mais voir comment il résonnait, quoi, plutôt dans l'univers spatial. Et somme toute, c'est devenu un objet, c'est devenu quelque chose qui était une sorte de protocole de travail, de protocole d'écriture, et qui pouvait finalement devenir aussi objet de dialogue avec des auteurs, avec des écrivains. Et en fait, ça, C'est donc quelque chose qui est apparu donc assez tôt, donc même avant la création de la revue Espace. Et d'où mon attention profonde au vocabulaire qu'ils avaient conduit à proposer des textes à partir de ce dispositif en prenant ces quelques mots en les prenant en français. Et d'ailleurs ça a été l'occasion de travailler aussi avec l'émission qui s'appelait les Décraqués, qui n'existent plus, sur France Culture, de proposer d'écriture de textes aussi à partir de ce dispositif. C'était antérieur, en fait, à la revue Espace, mais qui a permis de montrer déjà, de se dire, mais tiens, c'est quand même assez fécond. On était plus proche de l'Olipo, de ce point de vue-là. C'était une autre pierre qui permettait de s'aventurer dans l'écriture et l'espace, quoi. Et donc c'est cela qui s'est un peu passé avant même que la revue Espace se crée, quoi. Il y avait la revue Java, et puis il y avait un autre document, enfin une autre impression qui n'était pas une revue, qui était des textes reliés, qui traduisaient, qui avaient été commandés pour cette semaine langue française et qui ont juste été mis en voie à ce moment-là. C'est le résultat de la revue Java, bien sûr, bien plus contemporaine, mais aussi de cette approche très directe avec des auteurs à partir de ces dispositifs d'écriture, m'a donné l'idée de dire, mais finalement, il faudrait quelque chose. Voilà, la voie est ouverte. Et donc, ce fut le début de la revue Espace.
Parce qu'il y a quelque chose qui ne cesse de m'étonner, notamment dans ce dossier de la revue Java de l'année 2004, puisque vous parliez du vocabulaire. Le dossier est introduit par vous, Gérard Azoulay et Jacques André, dans un nouveau vocabulaire de l'espace. Donc il y a ces 10 termes, et puis il y a ce qu'en fait Jacques Sivan, abécédaire synaptique, il reprend les 10 termes. Il a fait ça aussi dans d'autres livres, Jacques Sivan. Et il le fait avec sa manière, son écriture, à lui, moléculaire. Et ce qui ne cesse de m'étonner, c'est comment un scientifique, comme vous, arrive à sortir de son champ disciplinaire pour être intéressé, mais vivement intéressé, même capté, par ce qui se fait de plus contemporain et de plus expérimental en langue française. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier Jacques Sivan, par exemple, de quelqu'un qui a véritablement expérimenté jusqu'au bout la langue. Or, ça peut complètement surprendre qu'un scientifique... Alors, bien entendu, on comprend qu'un astrophysicien est déjà très hautement habitué à des travaux expérimentaux, puisque l'astrophysique est essentiellement une science quand même. Dès qu'on commence à lire un peu de vulgarisation à la matière, on comprend que vous allez très très loin dans les idées. Mais généralement, le scientifique, c'est peut-être une caricature, mais ne s'intéresse pas forcément autant à l'expérimentation langagière telle que pratiquée par la revue Java et Jacques Sivan. Or, vous l'avez fait, et ça ne cesse de m'étonner.
Mais en fait, il faut bien voir que justement, ce que j'essaie d'appliquer aux autres, c'est-à-dire de ne pas être enfermé dans une catégorie, j'ai commencé par l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que être astrophysicien de formation, encore une fois, puisqu'au CNES, on ne fait plus de recherche, quand même. On ne fait pas de recherche scientifique. C'est une formation, c'est une ouverture d'esprit. Et justement, étant au CNES depuis, enfin bien avant d'avoir créé l'Observatoire de l'espace, j'en ai aussi découvert les multiples aspects. Et aussi, notamment, que l'espace, l'espace, le cosmos, mais vu au prisme finalement d'une certaine humanité, d'une humanité, je dirais, n'est pas quelque chose de désincarné. Et c'était ça aussi, ça qui m'a intéressé. Donc c'est comment mettre de la chair dans tout ça. C'est pas un désert, l'espace, sauf si, comme je disais, on regarde ça d'un point de vue vraiment très plus 19e-iste, hein, mais sinon c'est au contraire, c'est très habité. C'est ça qui m'a intéressé, et qui plus que l'écriture contemporaine, la poésie contemporaine pouvait y apporter cette épaisseur. Et c'est ça qui m'a, intéressé, qui m'a guidé. Et je ne crois pas que le fait... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'espace ne concerne, l'univers spatial ne concernait pas que les activités, ne concerne pas que le monde des sciences exactes. Et c'est aussi tout mon projet dès le départ. Et donc, moi-même... Et effectivement, étant moi-même astrophysicien et travaillant au sein du CNES, c'était peut-être aussi une certaine facilité pour élargir ce monde, cet usage, ce monde de l'espace, faire que finalement ça puisse aussi être ouvert à d'autres. Quoi. C'était ça qui m'intéressait, d'arriver à le partager différemment, même si bien sûr la question des sciences exactes est importante, de l'étude de l'univers spatial est importante, que ce soit par la planétologie, par l'astrophysique ou d'autres disciplines. Mais il y avait aussi toute une place pour le monde de la création, et c'est celle-ci qui m'a intéressé, enfin que j'ai voulu développer, ouvrir, enrichir.
Donc la revue Espace, je tiens entre les mains le numéro 20, c'est-à-dire le numéro, enfin le dernier numéro en cours. Vous préparez le numéro 21 actuellement. Cette revue Espace, dès qu'on regarde sa couverture pour ce numéro 20, elle est donc le dossier s'intitule Mythologie individuelle. Il y a plusieurs dossiers, dont un dossier majeur, ça serait celui-ci, Mythologie individuelle pour ce numéro 20. Mais la revue est sous-titrée désormais ainsi depuis plusieurs numéros, et elle affiche par cela une forte ambition. Espace, une revue, alors il faudrait peut-être préciser, ça ne se voit pas à la radio, mais c'est Espace avec à la fois singulier et entre parenthèses le S. Déjà, c'est une forte indication à la fois de sa singularité et de sa pluralité ou de sa tentative de pluralité. Et la revue est désormais sous-titrée ainsi, Espace, une revue de création du XXIe siècle à l'avant-poste culturel de l'exploration spatiale. C'est une très belle formule qui est fortement ambitieuse.
Oui, certainement, mais c'était finalement, on revient à cette difficulté que j'appelle moi une difficulté de lecture. Maintenant qu'on parle d'espace, on pense quand même, on est renvoyé uniquement aux sciences exactes. Et que je crois qu'il a toujours été important de prendre position, de prendre cette position, donc effectivement du S, de la pluralité des espaces, de la pluralité des contributeurs possibles, de ceux qui sont aussi ceux qui peuvent être concernés par cette aventure spatiale, et de le fait que et de ce point que important qui est que cette aventure qui est quand même extrêmement moderne dans mon point de vue, peut être concerne de nombreuses personnes, ne peut pas être réduite uniquement au monde scientifique et technique. C'était cette ouverture-là et le fait que c'est un lieu d'expérimentation extraordinaire, quand même. Lieu d'expérimentation à la fois, comme peut-être même en son sein, mais aussi par la prise en compte des interactions avec les humains. C'est cela que veut signifier, cette nouvelle couverture, c'est-à-dire où est-ce que nous nous situons, qu'est-ce que nous voulons explorer, quelles sont toutes les voies que nous voulons emprunter.
Parce que avec la revue Espace, on peut avoir aussi cette impression d'avoir à la fois une implication forte avec le langage, avec l'expérimentation littéraire et poétique, mais également d'être particulièrement en phase avec ce que fait de plus contemporain, ce que font de plus contemporain les sciences humaines. On peut penser à Bruno Latour, à Philippe Descola, et vous, dans la revue Java, Espace, oh, je suis désolé de ce lapsus, s'exprime aussi un certain vocabulaire théorique qui provient des sciences humaines véritablement actuelles. Il suffit juste que je lis ce court passage où vous introduisez ce numéro 20, puisque vous écrivez le texte d'introduction. Je vous cite « Holocène, Anthropocène, Capitalocène, bienvenue aujourd'hui dans la Cosmocène, une époque où l'homme ne se tient plus debout, seul face au cosmos, mais une ère dans laquelle humains et non-humains vivent de concert dans, de conserve peut-être même, je n'arrive pas à me relire, dans un milieu complexe où chacun devient détenteur d'une mythologie individuelle. Tout le vocabulaire que vous utilisez, c'est véritablement le vocabulaire des sciences humaines actuelles. Il n'y a aucun décalage, vous êtes complètement en phase avec ce qui se pense actuellement.
C'est aussi une des positions de la revue Espace. C'était de, même si elle est largement je dirais, ancrée dans la création contemporaine, que ce soit dans les arts visuels ou dans, dans l'écriture, il est vrai que il y a un environnement en sciences humaines qui est important, dans lequel elle évolue. D'ailleurs, elle s'en est fait à chaque fois, dans plusieurs numéros, elle s'en fait le reflet, puisque, par exemple, on a une résidence, on va dire, dans l'espace, enfin, dans un Airbus qui permet d'aller de voler et de simuler, je dirais, les conditions de l'apesanteur à 10 000 mètres d'altitude. Et justement, pour questionner ce monde, qu'est-ce que pourrait être ce drôle de milieu qu'est l'espace, et poursuivre finalement peut-être cette réflexion de Lévinas sur la question de s'arracher au lieu, parce que finalement, aller dans l'espace, c'était cela son point. La chose importante qu'il pointait dans sa discussion d'ailleurs avec Heidegger, c'était ce pouvoir enfin quitter le lieu. Et c'était moins l'exploit technique, et c'est bien cela qui nous intéresse, nous, bien moins l'exploit technique que finalement se déplacer, changer de statut, être dans ce hors-lieu. Et donc, finalement, c'est nous, par exemple, aussi, ce qui va trouver place dans la revue, hein, c'est inviter, inviter des chercheurs en sciences humaines à poursuivre cette réflexion, mais même de point de vue, je dirais, phénoménologique, puisque on se retrouve dans cet état-là, et je crois qu'un des textes, peut-être le plus caractéristique de cela, de cette démarche, c'est celui de Elie Düring. Donc, qui a voulu expérimenter cette condition orbitale qui est donc dans l'Airbus, et donc en restituer un peu les résultats de cette réflexion dans la revue. Donc, après d'autres ont poursuivi cette réflexion, ces textes, ces réflexions, cette résidence va irriguer la revue, va irriguer même les artistes, les auteurs qui fréquentent, enfin je dirais qui constituent cette communauté, parce qu'une revue c'est aussi ça, c'est somme toute, c'est une communauté d'auteurs, communauté d'artistes, communauté de chercheurs en sciences humaines. Finalement, c'est cela que je crois que c'est ce que ça représente, et c'est ce qui fait sa richesse peut-être et son originalité, c'est quand ces interactions se font et produisent encore d'autres choses, des rebonds. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'effectivement, il y a beaucoup de chercheurs en sciences humaines qui sont là, qui enrichissent la revue, tant par la réflexion que par ce vocabulaire que vous pointez.
Lorsque vous introduisez ce numéro 20, vous avez ce terme, ce beau terme de cosmocène, et on peut imaginer qu'est-ce que vous entendez par cosmocène, parce que c'est un terme qui vous est propre, enfin que j'ai pas lu chez d'autres, donc c'est vous qui allez inventer soudain. Voilà, il y a holocène, anthropocène, capitalocène, ça, certes, et puis on pourrait dire d'où proviennent ces termes, alors faire la généalogie, cosmocène, la généalogie, c'est simple, c'est vous, Gérard Azoulay, et en même temps c'est un très très beau terme qui peut signifier beaucoup. Vous le redites à la fin de votre introduction. Nommer ces acteurs du monde spatial, c'est déjà les penser comme des agissants. Et déjà, le terme agissant, c'est aussi un terme actuel, quoi, dans les sciences humaines. Et la cosmocène, elle se peuple lentement de ces agissants. Tout de suite, on peut avoir l'imagination fertile et imaginer cette cosmocène, mais comme une scène un peu théâtrale, qui va se peupler d'agissant. C'est aussi le propos de ce dossier mythologie individuelle, c'est-à-dire retrouver trace de personnes qui ne sont pas fêtées, peut-être des personnes un peu plus souterraines, mais qui ont agi néanmoins. Et ça, on est véritablement dans l'actualité des sciences humaines actuelles, c'est-à-dire de retrouver trace de tous les agissants, y compris les non-humains et des non-humains. Il y en a beaucoup dans l'espace, mais s'il y a l'espace est beaucoup plus peuplé de non-humains que d'humains.
Oui, pour le moment, malgré les efforts des grands industriels privés qui veulent tout, qui essaient de déployer des gros moyens techniques pour peupler l'espace. Enfin, reste effectivement l'espace pour le moment reste peuplé de majoritairement, comme vous dites, de non-humains. Et c'est vrai que cette question des agissants, qui est une notion qui est largement développée par Arlette Farge. Qui me paraît extrêmement juste dans l'univers spatial, qui est friand dans son grand récit, au contraire, de personnages hors normes, de grandes figures. Et donc, au contraire, justement, ce numéro de la revue s'intéresse, et même de manière générale, l'Observatoire de l'espace. On s'intéresse beaucoup plus à la micro-histoire, ces récits, ces micro-récits, mais ils ne sont pas des micro-récits, ils sont des grands récits de petits événements, de faits mineurs qui souvent font que l'espace, d'un coup, devient un lieu intéressant et pas un lieu qui est hors de portée, qui est mis à distance simplement par le récit. Et cette cosmoscène, elle est peuplée, comme vous le dites, hein, de tous ces personnages qu'on a relégués, pas obligatoirement volontairement, qui ont été relégués dans ces arrière-plans qu'il est intéressant d'éclairer, de ressortir de ces points aveugles, quoi. C'est vraiment là. Et qui finalement font de ce point de vue-là sont aussi une sorte de matière de leur récit les habits sont une matière textuelle, littéraire, fictionnelle aussi, qui est absolument qui est aussi très riche, quoi.
Donc ce dossier, Mythologie individuelle, qui est introduit par l'écrivain Éric Pessant, je le cite. « Ouvrir l'album photo de l'espace et regarder à côté, jamais au centre de la photographie mais sur les lisières, scruter celui qui ne prendra pas l'avion, celui qui regarde les autres, celui qui est de dos sur le document historique, celui de l'arrière-plan, ceux qui étaient présents, certainement essentiels, mais que la grande mythologie a exclu du récit officiel. » Si bien que dans ce dossier-là, il y a une vertu historique, même si ce sont essentiellement... Enfin, c'est des écrivains aussi qui ont écrit dedans, mais avec vraiment une approche véritablement historique. Si bien que j'ai l'impression que si on met tous ces 20 numéros de la revue Espace, petit à petit, on aura, en les lisant tous, imaginons que quelqu'un les utilise un peu comme une encyclopédie de la possibilité de vie culturelle dans l'espace, dans lequel, avec le dossier mythologie individuelle, prendrait place des agissants humains, cette fois, parce que là, il s'agit que d'humains, dont les noms n'ont pas percuté, dont les noms sont restés complètement inconnus, parce que c'était des techniciens, par exemple, et qu'ils y ont juste participé. Enfin, le juste devrait être suffisamment impropre pour que je le retire et dire ils ont participé. Et ils ont justement de faire ce travail historique peut sembler véritablement important pour une revue culturelle de l'espace.
Ça reste d'ailleurs profondément quelque chose de fondamental dans notre activité, dans l'activité de l'Observatoire de l'espace, en fait, justement pour effectuer, je dirais, ce déplacement, cette défascination de l'espace, dirais-je, qui est véhiculée par des grands récits médiatiques. C'est s'appuyer, somme toute, sur des... Ce n'est pas juste, ça ne peut pas être juste le prononcer, ça s'appuie aussi sur des documents qui donnent à voir quand même, ou donnent à lire ces agissants méconnus, inconnus. Donc c'est vrai que depuis des années, nous, Je travaille sur les archives visuelles, archives visuelles de l'espace, sur, c'est pour, qui documentent en quelque sorte, qui permettent des fois de construire, comme je dis souvent, des sortes de dispositifs, des dispositifs d'approche de l'univers spatial. Donc c'est ceux-là qui sont proposés d'ailleurs aux écrivains. Donc, mais c'est bien parce que, mais ça s'appuie sur ce type de documents, cette matière-là. Ces photos qui ont, ils ont peut-être pas disparu en fait. C'est pas un trésor, c'est une question de changer la focale plutôt. Ils étaient là, ils sont là. Et sont là, c'est juste changer cette focale et leur redonner un peu de netteté, un peu d'acuité. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui permet justement de numéro en numéro, ben, de tisser quelque chose, d'autre chose sur l'espace et de faire, de réactiver cette population, quoi, tous ceux qui ont participé.
Et puis dans ce numéro 20, il y a un deuxième dossier qui m'a particulièrement captivé, qui s'appelle l'Afrique, l'espace dirigé par David Redon. Et là, on est en présence d'art, il y a une présence de photographie très importante, d'art contemporain. Et nous avons affaire à la pensée, ce qu'on appelle la pensée décoloniale. Voici comment David Redon a introduit ce dossier, l'Afrique, l'espace. Il commence par cette phrase « Il y a peu d'activités spatiales en Afrique, c'est un fait ». Et puis, il va terminer par cette phrase, « Pour en finir avec l'annexion du lexique spatial », et donc on en revient au début de notre entretien sur le vocabulaire, « Pour en finir avec l'annexion du lexique spatial par le colonialisme européen, où les et il termine véritablement par cette phrase en parlant des costumes des afronautes. Et il y a eu une série d'expositions à Paris ces dernières années où justement il y avait une forte présence d'artistes contemporains africains par lesquels on a pu découvrir que la question spatiale aussi était importante chez ces artistes. Et donc où les costumes des afronautes seuls permettent la respiration post-anthropocène. Ce qui est introduit par ce dossier, l'Afrique, l'espace, c'est que finalement, pour ce qui expliquait que le continent africain a effectivement eu très peu d'activités spatiales. Enfin, on peut penser au plan spatial qu'avait Mobutu, qui a voulu construire une fusée. On peut avoir en tête cette vidéo où, à un moment donné, il voit décoller la fusée et puis elle retombe sur le sol malencontreusement et il a l'air un peu, bon, dépité. Mais en même temps, sans avoir eu cette activité spatiale, ceux qui font expérimentation, notamment en art, inventent des scaphandres. Et on peut imaginer qu'avec ces scaphandres artistiques, avec lesquels il vaut mieux ne pas aller dans l'espace, sinon on risque de s'étouffer. Mais néanmoins, quand on les voit, ou quand on les voit imaginer aussi par des peintres, eh bien, on peut imaginer que ça serait une possibilité de respiration post-anthropocène, c'est-à-dire une possibilité par l'art et par ses créateurs contemporains d'avoir une vie dans l'espace. Enfin, je pense à cette image de ce peintre, je ne retrouve plus son nom, mais que j'aime beaucoup, Chéri Samba, avec quatre ou cinq spationautes africains avec des combinaisons spatiales en wax et qui sont vraiment super belles. Enfin, c'est-à-dire qu'on est autre chose qu'avec la combinaison toute blanche de Thomas Pesquet.
Non, mais tout à fait. Ça me semblait important dans ce numéro de mythologie finalement individuelle de donner cette place à de trouver, là encore une fois on est dans cette question de l'invisibilité de l'espace, hein, ou de ceux qui s'intéressent à l'espace. C'est aussi voir que l'univers spatial avec ses images, presque là on est aussi devant la question de la circulation des images, hein, c'est comment ces images je dirais de l'Occident vont se retrouver et comment elles vont être traduites, reformulées, réactivées avec d'autres valeurs d'ailleurs, d'autres, puisque souvent on sort avec une critique de la consommation, des questions de déchets technologiques, mais quand même qui se et où où finalement ben l'espace, la métaphore de l'espace devient beaucoup la métaphore de l'exil et du voyage. Donc où on sait que en Afrique subsaharienne c'est quelque chose qui c'est une notion qui est très présente. Et donc c'est voilà et en fait c'est dans ce dossier ce qui est intéressant puisqu'on n'a pas non plus la prétention de faire une expo, c'est pas une exposition, c'est des choses qui il n'y a pas de création, sont des œuvres existantes, hein, ils sont pas, mais c'était de les regrouper différemment, de les rassembler déjà de les rassembler, de voir finalement qu'est-ce que ça construit en les rassemblant. Cette action assez simple, finalement, d'aller essayer, avec nos moyens, de faire cette recherche sur ces artistes de l'Afrique subsaharienne et comment à chaque fois ils s'en sont saisis. Il n'y avait pas de projet préalable plus que ça, donc de voir les images, de voir finalement qu'est-ce qui était porté, les notions qui apparaissaient, la question de la figure du spationaute, la question du voyage, du territoire, et de voir comment à chaque fois eux, de faire cette organisation en fonction de ce qu'on produit ces artistes, et donc comment ils vivaient ces notions, comment ils les ont traduites. Et ça, je trouve que c'est ça qui était intéressant dans ce dossier, quoi. C'est ça qui raconte quelque chose de plus que simplement montrer les œuvres, hein, qui ont leur valeur plastique et qui est indéniable, mais c'est aussi peut-être traduire cette idée de cette question de l'espace, du rapport à l'espace, et qui peu à peu, on le voit, pour nous est important de construire, c'est qui s'intéresse, comment on s'intéresse à l'espace, comment qu'est-ce qu'on en fait, comment par exemple ces artistes qui n'ont pas de moyens spatiaux, très peu directs, n'ont pas, comme ça a été dit, d'activité spatiale, comment ils arrivent quand même à construire un rapport à l'espace. Et donc peut-être c'est ce qui amorce après peut-être un mouvement qui va trouver chez nous du moins d'autres rebondissements, d'autres investigations. On va se poser la question après dans d'autres endroits, dans d'autres pays, d'autres façons.
Oui, parce que si ces artistes pour qui s'intéressait l'art contemporain sont connus, là, ils ne sont pas dans un catalogue d'exposition, ils ne sont pas dans un lieu d'art contemporain. Ils sont réunis dans une revue qui s'appelle Espace et qui fait partie du CNES. Et là, moi, en tout cas, de les revoir à cet endroit-là, dans la revue, ça produit un autre effet, en fait. On aurait presque pu faire peu de choses près, modifier le dossier pour dire voilà, champ, c'est Thomas Pesquet dans sa combinaison blanche dans la Station Spatiale Internationale, contre champ, ce que peuvent en faire des artistes d'Afrique subsaharienne et qui inventent un imaginaire. C'est surtout ça qui me fascine chez ces artistes-là, c'est qu'ils façonnent un imaginaire qui est véritablement autre, qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans notre cinéma de science-fiction. On ne verrait pas une combinaison ainsi dans nos films de science-fiction, à moins qu'ils soient burlesques, mais sinon pas. Et c'était ça, justement, que j'ai trouvé fascinant, c'est dans quel lieu, dans quelle institution est reçue ce type de proposition artistique. Alors j'aimerais qu'on en vienne au numéro 21, celui qui est en préparation, celui qui va bientôt sortir, qui portera sur des réflexions à propos d'un parlement des choses spatiales. Là aussi, on est avec ce qui se fait de plus contemporain en matière de sciences humaines. Dans le texte liminaire à l'appel à contribution, il y avait une très très grande ambition. Je vais lire, ce sera peut-être le texte d'introduction que vous écrirez dans ce numéro 21. Il pourra y avoir des modifications. Je cite donc cet appel à contribution. On entend ici par espace un milieu où se croisent acteurs majeurs et méconnus, humains et non humains, territoires et réseaux d'information. L'aventure spatiale n'est plus le résultat d'une série d'événements s'inscrivant complaisamment dans la chronologie d'une humanité triomphante, mais un terrain où faits, circulation et récit forment le tableau mouvant d'une expérience permanente. Le milieu spatial devient alors un lieu qui offre la possibilité de contribuer à élaborer, dégagée de tout testament, une politique du cosmos inédite. Cette politique pourra se penser et s'exprimer dans l'enceinte d'un parlement des choses spatiales. Et ce qui ne cesse de m'interroger dans ce beau paragraphe, c'est quand il y a cette proposition de parlement des choses spatiales, je pense automatiquement au parlement des choses de Bruno Latour, qu'il a théorisé à la fin des années 90, et puis qu'il a continué encore à élaborer jusqu'à aujourd'hui, et peut-être même aussi à mettre en place. Sauf que Bruno Latour, l'espace, en tout cas l'imaginaire de l'espace, ça ne l'intéresse pas. Il est pris, il est capté par Gaïa, et il ne va pas chercher à élaborer un imaginaire spatial. Il va laisser ça aux écrivains de science-fiction, mais il ne va pas essayer d'entretenir en tout cas une théorie là-dessus. Or, de proposer un parlement des choses spatiales est à la fois très surprenante en vue de la théorie latourienne, et en même temps, elle peut être éminemment féconde. Mais oui, bien entendu, s'il y a un parlement des choses terrestres, mais oui, il faudrait également un parlement des choses spatiales. Et cet appel à contribution, c'est pourquoi pas cette ambition de créer une enceinte d'un parlement des choses spatiales. Et bien entendu, on imagine très bien que c'est la revue Espace qui se fera l'organisatrice de ce parlement.
L'organisatrice, je ne sais pas, mais peut-être elle rendra compte. Et en fait, c'est... Dans cette question justement du Parlement des choses spatiales, c'est la question d'une réflexion spéculative. Et c'est ça qui est intéressante et qui peut, comme vous dites, être féconde. Parce que bien sûr, on est face à un milieu qui ne donne pas toujours de prises par rapport à Gaïa. Enfin, on donne plus difficilement des prises, mais justement, donc ça... Encore une fois, ça devient quelque chose qui est très, très riche de manière spéculative. D'abord, qui siège dans ce Parlement, quelles sont ses instances, comment ça peut être représentatif. Et d'ailleurs, dans le numéro 21, il y a certainement une certaine place importante sera donnée juste dans une première étape peut-être à la question de l'espace et des non-humains, cette question qui est intéressante, comme savoir qu'on a déjà un peu esquissé dans cet entretien, dans la revue, c'est qui sont finalement invisibilisés dans l'aventure spatiale et qui pourtant, si on se hasardait à faire des catégories très de ces entités, on voit bien qu'on parle des entités des non-humains biologiques, des non-humains minéraux, des non-humains machiniques. C'est dire comment en quelque sorte donner place à ces entités sans sombrer dans un discours complètement anthropomorphe et qui serait très peu productif. Donc c'est là un peu aussi l'enjeu de ce prochain numéro. Et donc peut-être de mettre en place des dispositifs, encore une fois je reviens à ce mot que j'aime beaucoup parce que ça recouvre à chaque fois un ensemble de moyens et de réflexions qui permettent d'aborder peut-être certains problèmes et certaines questions que nous soulevons et que nous agitons. Donc par le biais peut-être de l'enquête, voilà, c'est ça qui nous a intéressé, par cette question, finalement, on ne peut pas faire parler tous ces non-humains, ça n'aurait pas de sens, donc c'est comment finalement on peut avoir une démarche objectiviste, et en quelque sorte une écriture objectiviste, et c'est ça qui pourrait être la manière d'aborder un peu c'est ce que sont, ce qu'ils font, puisqu'on ne peut pas... On ne comprend pas ce qu'ils disent, de toute façon, on ne comprend pas leur discours, s'ils en ont d'ailleurs. On ne sait pas, on ne peut pas se substituer. Et c'est vraiment par cette approche, je dirais, objectiviste qu'on pourrait, on espère pouvoir rendre compte déjà de ces communautés, de ces entités, de ces communautés d'entités, pardon, qui peuplent l'espace. Donc quand je parlais de dispositifs, on a mis en place un laboratoire d'écriture avec des. sur ce thème des non-humains ou des autrices, trois autrices qui travaillent dans ce laboratoire avec des membres du comité de rédaction de la revue. Donc on s'est réunis mensuellement avec des, encore une fois, comme c'est dans le droit fil de notre revue, donc avec des autour de pièces historiques, j'allais dire d'archives, parce que finalement on part en fait de on part du réel. En fait, c'est ce qui a toujours été quand même le gros ancrage important de la revue, le réel. Donc là, sauf que le réel, on peut le décrypter peut-être différemment. Enfin, c'est tout l'enjeu de ce laboratoire. Là, encore une fois, peut-être que ces non-humains étaient déjà présents dans les archives textuelles, audiovisuelles, visuelles, et que à chacun ou à chacune plutôt de faire de, je dirais de remettre au premier plan ces entités là donc voilà, c'est un petit peu le premier, c'est un peu ça va être la première façon d'aborder de cette question du parlement des choses spatiales, quoi. C'est, et ensuite peut-être dans le numéro 22 on essaiera de construire une enceinte et un parlement et finalement un projet de longue haleine quand même.
C'est cela dont j'ai l'impression, c'est que c'est un projet de longue haleine. Là, on est dans une très vaste ambition et on sent bien que c'est un point de départ pour plusieurs numéros et pour toute une réflexion de l'Observatoire de l'espace, en fait, que c'est véritablement vers là que se dirige le laboratoire de l'Observatoire de l'espace, ce parlement des choses spatiales. Quelque chose de certes très vaste, mais en même temps personne ne s'y est attelé parce que on n'est plus dans le cadre scientifique. Le cadre scientifique lui fournit ce que vous appelez le réel, le concret, l'objet, l'archive. Et à partir de là, effectivement, c'est plutôt des théoriciens des sciences humaines, des créateurs de fiction qui peuvent s'emparer de ces objets-là concrets, réels, pour essayer de les faire peut-être mieux parler.
Oui, ou d'être... c'est difficile de dire la réinterprète, puisque c'est question d'avoir des alliances avec ces choses. Mais d'où tout ce que je... cette remarque sur les questions objectivistes, donc c'est qui peut-être fait une boucle avec la revue Java, donc finalement c'est qui est peut-être une boucle qui finalement était très fidèle aux objectivistes américains, et donc et finalement qu'on se dit le reste éthique et qu'on voit que et aujourd'hui même si la revue Espace de ces numéros était ouverte à beaucoup d'influence, je parle en termes de littérature, en termes d'écriture plutôt, de manière générale, et de fait, pour deux fois de numéro en numéro, pour ce, et notamment pour celui-ci, on sent bien qu'une sorte d'esthétique domine, et cette esthétique emprunte beaucoup à l'objectivisme aussi. Donc je crois que c'est peut-être ça aussi qui va nourrir, structurer, irriguer plutôt la revue et ce numéro, enfin le prochain numéro, le 21, et peut-être les suivants.
Merci beaucoup, Gérard Zoulet. Merci.